Écoutez, je vais d'abord vous remercier de m'avoir invité pour développer ce thème. Alors, effectivement, on aurait pu décliner ce titre de différentes façons, et puis on aurait pu dire, est-ce que la femme a un avenir dans la médecine, ou bien quel est l'avenir de l'homme dans la médecine? Parce qu'en posant la question de la femme, immanquablement se pose la question de l'homme dans la médecine. Et c'est une question piège, car si on l'entend simplement comme sur un mode purement numérique, purement statistique, la question est relativement simple. Par contre, je pense qu'il faut l'entendre au-delà de la statistique, au-delà d'un possible changement de genre de la médecine. Et quand on aura fini d'entasser des banalités et des statistiques, je pense qu'il faudra apporter une réponse, à savoir quelle est la place de la femme dans la médecine et est-ce que les hommes sont prêts à laisser une place aux femmes dans la médecine. La féminisation est une réalité quand même beaucoup plus complexe que le simple fait statistique, que la simple règle statistique, ou qu'un étiquetage, ou qu'un empilement de nombres ou de statistiques. C'est un phénomène qui s'est accéléré avec le temps, mais comme on le verra, pas de panique, c'est un phénomène qui est extrêmement régulier et qui va devenir probablement asymptotique, comme tous les phénomènes d'accroissement. Alors pourquoi il s'est accéléré avec le temps? C'est parce que d'une part, il y avait un retard à rattraper au niveau de la féminisation de la profession de médecin. C'est parce que c'est logique, en définitive, et on en reparlera tout à l'heure, parce qu'on ne voit pas pourquoi les femmes ne seraient pas médecins. On va se poser cette question encore une fois tout à l'heure en se disant, c'est bien curieux qu'il y ait encore une récurrence, une permanence de cette question au XXIe siècle, de se poser la question de savoir si les femmes ont une place dans la médecine, et puis probablement parce que c'est l'avenir, donc c'est un phénomène qui s'accélère avec le temps. Alors, la médecine va mal, la médecine va bien, pardon. La médecine va bien, ça c'est un fait, parce qu'il n'y a qu'à regarder l'efficacité thérapeutique pour s'en rendre compte. Telle efficacité thérapeutique qui a quand même déplacé le problème de l'éthique, puisqu'on se dit quelle question éthique peut-il rester dans la médecine, dans la mesure où, effectivement, les gens vont de mieux en mieux et sont de mieux en mieux soignés. Donc c'est effectivement, la médecine va bien. Mais alors ce qui ne va pas bien, et là je peux en témoigner, ce sont les médecins. Les médecins ne vont pas bien, il y a effectivement une crise à l'intérieur de la médecine, les médecins ne sont pas heureux de leur pratique, ne sont pas heureux dans leur pratique, et donc effectivement il y a un problème. Et dans la plaquette d'introduction à ce cycle de conférences, il y avait cette phrase, la femme est-elle l'avenir de l'homme malade? Je dirais que la femme est probablement l'avenir du médecin malade, malade dans sa profession, malade dans son exercice au quotidien. Alors, parler de l'avenir de la médecine est bien délicat. En termes numériques, c'est certes que la féminisation est probablement l'avenir de la médecine, mais en tant que pratique médicale, il est quasiment impossible aujourd'hui de dire quelle sera la médecine de demain. Rien ne permet actuellement de prédire les effets à long terme d'un tel changement. Il faudra essayer d'anticiper, c'est certain, pour essayer d'en capitaliser les effets bénéfiques de ce changement et d'essayer de prévenir les inconvénients. Alors nous sommes passés d'un monde qui était marqué par la stabilité et où les changements prenaient l'allure de mini-crises qui étaient rapidement traitées avec un retour à la norme antérieure qui était le monde masculin, dans un monde qui est en perpétuel changement et où on a du mal à se repérer et on a du mal à anticiper sur les phénomènes qui vont se produire, si bien qu'on est dans une perpétuelle accélération et qui ne donne pas une image relativement stable de l'avenir de notre profession. On est dans un monde en mutation, où les barrières tombent, les barrières vont tomber entre les hommes et les femmes, entre le sociétal et l'individuel, et ça se pose un problème important à la médecine, parce que la médecine jusqu'à maintenant était là pour privilégier l'intérêt individuel, et maintenant, les missions de la médecine, c'est de préserver l'intérêt sociétal. C'est des missions de santé publique qui sont données aux médecins. Donc elles vont tomber entre l'universel et le privé, entre le connu et l'inconnu. On traite les symptômes croyant traiter le problème et on est là dans des simplifications et voire une caricaturisation de la situation. Et nous devons effectivement sortir de l'ère des simplifications sauvages, voire du simplisme. la modernité étant définie par l'ère des simplifications face à la complexité et à l'incertitude. Alors on est dans la rupture. On est dans la rupture, et la rupture, c'est la rupture des mythes de référence. Alors les mythes de référence dans la médecine, c'était le secret médical, et effectivement, le secret médical est de plus en plus battu en brèche. C'était l'intérêt individuel, et il est de plus en plus battu en brèche par l'intérêt sociétal. C'est l'éthique qui est remplacée par la bioéthique. La bioéthique englobe l'éthique et va la dépasser en y incluant dans la bioéthique des phénomènes de société auxquels le médecin n'était pas jusque-là obligé de se caler sur ces éléments de société. C'est un consentement. C'est un consentement éclairé, parfois à la lueur d'une flamme vacillante, mais c'est un consentement. Et c'est un consentement qui se fait dans la négociation. Le médecin n'est plus dans l'ordonnance, il est dans la négociance. Il va constamment être obligé de négocier avec son patient. Et c'est une aide à l'application de la règle, mais c'est quand même une négociance et les médecins ne sont pas habitués à cette négociation avec un interlocuteur qui est quand même toutefois très bien informé. Actuellement, les patients sont en général très très bien informés et ils imposent aux médecins une règle d'excellence parce qu'ils ont déjà consulté, souvent sur Internet, ça a la valeur de ce que ça a, mais enfin, ils ont consulté, ils sont informés et le médecin est obligé de composer avec cette réalité. Donc une rupture contextuelle globale, tout doit être passé en fonction d'une évolution rapide et qui est parfois imprévisible de la société, avec l'abandon de certains interdits et l'affirmation de nouveaux choix sociétaux. C'est une rupture technologique, avec l'intrusion massive de la biotechnologie dans la pratique médicale. La médecine s'est dotée d'outils technologiques extrêmement puissants, qui la rendent plus facile, plus efficace, et qui lui donnent une allure scientifique plus certaine, plus vraie, ce qui fait qu'effectivement, les femmes qui ont un esprit beaucoup plus rationnel que les hommes vont pouvoir s'intégrer plus facilement dans une médecine qui a une allure scientifique. C'est une rupture à l'échelle du temps. Les mutations se font, nous l'avons dit tout à l'heure, de plus en plus rapidement. Et les experts, les prédicteurs et les services de planification n'ont pas beaucoup de délai entre le moment où ils perçoivent les modifications, les premiers signes avant-coureurs d'une mutation et l'arrivée de celle-ci. À ce propos des mutations, à ce propos des crises, il faut dire qu'on est dans un pays où on ne croit à la réalité d'une crise que lorsqu'elle est arrivée. Et quand une crise est arrivée, on est toujours dans l'affirmation qu'il n'y avait aucun signe avant-coureur d'une crise. Et pourtant, c'est faux. L'intérêt de la rupture, c'est une notion psychologique et sociologique. Elle concerne la réalité humaine, individuelle et sociale, sans être politique. Et c'est là qu'il y a un problème, parce que quand il y aura une rupture, elle va toujours être récupérée politiquement, et c'est là qu'il y aura des difficultés. Une rupture est avant tout une pratique dans l'action logique qui permet d'innover et de construire un sens individuel et collectif. Face à cette rupture, nos anciens référentiels ne fonctionnent pas. Il faut donc changer de référentiel. Nous avons, et nous l'avons dit tout à l'heure, une incapacité à identifier les signaux faibles quand il y a une rupture et quand il y a une crise. Il faudra donc s'habituer à identifier des signaux faibles. Nous avons une cécité en matière de signaux non conventionnels. Troisièmement, nous avons une inaptitude à construire des relations transverses. Et Dieu sait si en médecine actuellement, il est impossible de travailler si nous ne sommes pas capables de travailler dans la transversalité. Et la féminisation pourrait être une possibilité de travailler dans cette transversalité et de nous permettre d'évoluer à l'intérieur de la médecine. Alors la féminisation a-t-elle un avenir dans la médecine et est-elle l'avenir de la médecine? Alors on pourrait dire d'abord, est-ce que c'est l'avenir de la profession? Jusqu'à maintenant, la médecine était, c'est clair, un métier d'homme. Est-ce que c'est la féminisation du corps médical? On a dit souvent, la médecine a changé de sexe, le corps est incarné dans un nouveau genre. Est-ce que c'est la féminisation de la société? Tout cela traîne partout. La société aurait changé de sexe, aurait changé de genre. La féminisation croissante de la profession médicale apparaît comme un simple marqueur, en définitive, de l'évolution générale de la société et non pas simplement un marqueur de l'évolution de la médecine. Tout d'abord, on doit dire que la société a bougé, a évolué et il y a une féminisation de la société. Les valeurs dites féminines impactent fortement la société après une approche progressive et logique. Elles ont transformé la vie du couple, la vie du ménage, Elles interviennent dans tous les domaines professionnels. Certains ont pu dire que la société avait changé de sexe, nous l'avons déjà dit, mais ce qui est un contresens, car il se peut que la société ait changé de genre, mais en tout cas, elle n'a pas changé de sexe. La féminisation a beaucoup de côtés positifs, c'est certain, mais certains sont à déplorer également. C'est la violence de certaines jeunes femmes, c'est les addictions au tabac ou à l'alcool qui sont la contrepartie d'une féminisation de la société. Le retard de féminisation de la société n'est pas la conséquence d'un complot intentionnel des hommes pour subordonner les femmes, c'est la conséquence de la répartition par la structure familiale des rôles sociaux et des rôles sexuels. À travers ce retard de féminisation, on découvre que les effets de l'inégalité ne sont pas mesurables en termes objectifs et que l'assignation des femmes à des tâches privées a participé à une diminution des repères de sociabilité. La féminisation est donc en fait une remise en cause de la norme. C'est d'abord une réalité. Il est évident que c'est un exemple concret, c'est une réalité quantitative, nous avons dit, et on vous l'a sûrement exposé dans les exposés précédents, c'est une réalité quantitative. Mais c'est un vrai faux débat, parce qu'on raisonne comme si cette progression des femmes dans la médecine allait se faire de façon régulière et arriver au 100%. On redoute, à travers cette crise, le fait qu'il va y avoir 100% des femmes sur les bancs de la faculté, alors qu'actuellement et depuis 2 ans, on assiste à une stagnation. C'est un vrai faux débat parce qu'on peut se poser la question de savoir pourquoi, de nouveau, il faut parler de ce problème de la féminisation alors qu'il est acquis, me semble-t-il, de façon définitive que les femmes ont une place, une vraie place dans la société. Cette insistance de la question devrait nous inquiéter et nous faire développer la question de savoir pourquoi cette question est toujours insistante dans notre société. Mais il est vrai que c'est une éternelle problématique qui témoigne encore du poids considérable des préjugés et du conservatisme. La femme reste et demeure un problème dans la société avec toujours une dévalorisation de tout ce qui touche au féminin, avec la permanence d'une valeur différentielle des genres qui relance la problématique d'une hégémonie, d'une différence des sexes, interprétée comme une différence des genres avec une contestation de l'ordre stabilisé des genres, ce qui permet de relancer une analyse des relations de pouvoir et des formes d'aliénation mentale qui lui sont liées. Et là, on entre dans le cœur du débat. Mais c'est aussi une obligation légale, une contrainte administrative. Une cloison technique a été installée, mais ce n'est pas en obligeant les entreprises, les professions à se féminiser que l'on sortira du débat binaire. Cela ne fait que créer des résistances. Il faut une société avec plus de démocratie et plus de débat. La parité n'est pas l'égalité, et l'égalité ne peut pas être imposée arbitrairement. Sommes-nous pour autant en crise ? Qu'est-ce que c'est qu'une crise ? La crise, c'est le moment d'une situation existante caractérisée par un changement subi et généralement décisif en bien ou en mal. Et c'est probablement le moment où la thérapeutique est la plus efficace. À y regarder de plus près, c'est l'exercice même de la médecine, y compris dans ses fondements, qui est en question. Parce que, en définitive, nous savions que cela devait arriver. Nous savions, si l'on regarde les courbes de féminisation des amphithéâtres, que les femmes étaient présentes. Les femmes étaient déjà là en médecine, sont toujours là et resteront probablement là. Elles ne sont pas là par hasard, donc on ne peut pas dire que c'est vraiment une crise. Nous sommes pourtant dans une situation de crise annoncée, surmédiatisée, surexposée, mais c'est avant tout une crise fabriquée. La féminisation, alors parlons-en, quelle réalité ? Alors premièrement, c'est un aspect quantitatif, c'est une progression numérique. La profession médicale s'est fortement féminisée si l'on regarde l'aspect quantitatif. L'adresse prévoit une majorité des femmes en 2020. Mais c'est aussi un aspect qualitatif, c'est le poids professionnel. Cette évolution a-t-elle profondément et probablement et durablement modifié le mode d'exercice médical ? L'effet de masse des revendications et des aspirations des unes a-t-elle impacté la politique de tous ? Mais malgré cela, les postes à responsabilité et les instances représentatives restent encore majoritairement occupés par des hommes. Peut-être parce que la médecine n'échappe pas au conservatisme de la société, l'égalité quantitative ne correspond pas à une égalité représentative. Il est important toutefois de savoir que pour qu'il y ait impact de la représentation, il faut que la composante du corps atteigne environ 30%. On est donc en droit de penser qu'avec un léger décalage, la représentation féminine devrait peu à peu se faire puisque le nombre de femmes présentes à la médecine a dépassé les 30%. Cela reste quand même dans les entreprises, et plus particulièrement dans la profession médicale, une difficulté. Certaines entreprises ont résolu ce problème en créant ce qu'ils appellent un mentorat. C'est-à-dire qu'ils vont proposer à une femme d'être entourée par un homme et par une femme, de manière à comprendre pour quelles raisons elle ne peut pas accéder à des postes de responsabilité ou à des postes de représentativité. C'est peut-être une piste à retenir pour essayer de permettre aux femmes d'avoir une représentativité dans notre société médicale. Alors tout le monde connaît ce schéma, c'est pour ça que je vous disais que si c'est une crise, c'est quand même pas une crise qui existe depuis peu, puisque vous voyez que la progression de la courbe des femmes médecins en exercice n'a cessé d'augmenter, et pas depuis hier, puisque vous voyez que c'est depuis 1984, et que toutes les spécialités, toutes les représentativités, que ce soit les médecins hospitaliers, les médecins libéraux, sont représentés comme étant régulièrement progressifs. Ce n'est pas donc un pic brutal qui est arrivé dans la profession. Et on va voir à travers l'histoire des femmes, à travers la médecine, que ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais qui a été toujours entaché par des idées reçues, par des préjugés ou par des stéréotypes. Alors, s'agit-il dans ces courbes d'une prévision ou d'une projection ? La différence est quand même importante. La prévision, c'est quoi ? C'est une forme moderne de la futurologie, mais on doit tenir compte que pour faire une prévision, il faut que toutes les autres constantes restent stables par hasard. Et donc, on n'est pas dans l'évolution de l'être humain, on est dans l'évolution de quelque chose qui ne va pas bouger. Or, en médecine et dans toutes les professions, dans la mesure où il s'agit d'être humain, on est en droit de penser qu'il va y avoir modification des autres paramètres. Donc, il est probable que ce n'est pas tout à fait une prévision. Alors que la prospective, c'est un ensemble de recherches établissant une projection sur l'avenir. C'est l'évolution future de l'humanité qui permet de dégager alors les éléments de la prévision. C'est une variable qualitative et elle va nous donner une légitimité à penser. Sommes-nous donc dans une projection, dans une prévision ? Projection, prévision, on peut dire que les hypothèses de départ actuellement ne correspondent pas forcément à la réalité. Les hypothèses de départ n'ont pas été prises sur la réalité de terrain. Elles aboutiront donc à des conclusions qui seront fausses. Nous allons donc essayer de nous préparer à prévoir l'avenir, mais nous allons nous trouver dans une difficulté, car on ne pourra pas anticiper pour savoir quelles seront l'évolution de l'avenir. Il faudra donc prévoir l'imprévisible qui est toutefois une tentation masculine, et on retombe là dans un biais qui est assez habituel dans nos sociétés. Nous sommes donc incapables d'affirmer si en termes mathématiques la femme est l'avenir de la médecine, nous ne pouvons que donner une prévision. D'autre part, tous nos modèles de prévision et de projection sont faits pour fonctionner dans des situations ordinaires. Or, il est clair qu'ici, en médecine, nous sommes dans une situation qui est clairement extraordinaire. Quelques variables non stables à prendre en considération pour montrer qu'effectivement, on ne peut pas faire une prévision avec une bonne stabilité. D'abord, nous ne savons pas quelle va être l'évolution des femmes inscrites en médecine. On ne peut simplement que faire une projection. Deuxièmement, nous avons des difficultés à évaluer le nombre des départs à la retraite dans le ratio homme-femme. Troisièmement, nous avons des difficultés à intégrer les coefficients d'attractivité pour les femmes médecins des régions. Vous savez qu'il y a une grande disparité entre le nord et le sud de la France en particulier, et entre la ruralité et les villes. Mais également, cela peut se poser dans le cadre des hypothèses de départ. Quatrièmement, nous avons des difficultés à prendre en compte les médecins femmes formées à l'étranger, en particulier originaires de l'Europe de l'Est et plus particulièrement de la Roumanie et de la Bulgarie. Les femmes de ces pays, et on voit là un retour de balancier, puisque vous savez, on a dû vous l'exposer dans l'histoire de la féminisation de la médecine. La féminisation de la médecine s'est faite en France essentiellement par des femmes venues de Russie, par des femmes venues de Bulgarie et par des femmes venues de Roumanie. Et là, de nouveau, on voit arriver dans le cycle de la féminisation, de nouveau, ces personnes des pays de l'Europe de l'Est. Donc on ne sait pas actuellement comment et quel est le nombre de ces femmes qui vont intervenir. D'autre part, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans le référentiel, Il faut changer de référentiel parce qu'on ne repère que ce qu'on connaît. Et manifestement, en médecine actuellement, il y a beaucoup de choses qui se passent et qui ne sont pas du domaine du repérable ou qui sont des domaines de signaux extrêmement faibles, pas de signaux forts. Donc, il faut changer de référentiel. Sixièmement, qu'est-ce qui est repérable de l'ordre de l'intrinsèque et du culturel? Parce qu'on va naturaliser certaines fonctions féminines et les rendre de cette façon intrinsèques alors qu'elles appartiennent au domaine du culturel. Septièmement, quelle va être l'influence des décisions individuelles et des décisions politiques dans l'évolution de la médecine? Quelle va être la place de l'évolution du numerus clausus et de l'impact des réformes dans les mesures médicales? Vous savez qu'actuellement, dans les mesures médicales, on envisage un cursus où il y aura licence, maîtrise, doctorat, et on peut se poser la question de savoir si ce nouveau cursus médical sera pas un moyen de sortie plus rapide des études médicales. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des gens qui ne vont pas sortir au niveau de la maîtrise et qui vont être autorisés, pardon, à pouvoir exercer la médecine? On retombera sur ce qu'on a connu il y a quelques années, enfin quelques centaines d'années, sous le terme d'officier de santé. Donc on peut se dire, si ces réformes des études médicales ne vont pas aboutir à une sortie précoce des femmes du circuit médical, parce qu'elles voudront entrer plus rapidement dans la vie professionnelle, pour avoir une vie privée plus intense, ou pour entrer plus rapidement dans la maternité. Donc toutes ces variables ne sont pas entièrement connues actuellement. Alors, en France, qu'est-ce qu'on peut dire sur la féminisation de la médecine? Tous ces chiffres sont connus, c'est 64% des étudiants en médecine actuellement sont des étudiantes, 40% des médecins actifs sur le terrain sont des femmes sur 200 000 actuellement. C'est un chiffre qui date de 2 ans, il est probable qu'actuellement on est plus près de 50% que de 40%. Quelques chiffres. Dans les pays occidentaux, vous voyez que tous les pays sont en voie de féminisation de façon un peu inégale, mais on tourne tous aux alentours de 40 à 50% de féminisation dans tous les pays. En Hollande, une particularité, c'est qu'on trouve 84% de femmes qui sont des assistantes de médecins et qui sont salariées. C'est l'équivalent en France de ce qu'on appelle le contrat de collaborateur libéral, qui a été créé pour intégrer des jeunes dans la profession médicale en leur laissant une grande liberté quant à l'exercice de la médecine et surtout qui ne les brident pas si plus tard ils veulent s'installer, en particulier en face de ce médecin ou dans le périmètre immédiat de ce médecin. Donc vous voyez que ces chiffres sont quand même assez éloquents. Ce n'est pas un phénomène franco-français, c'est un phénomène général en Europe. Alors, comment lire le phénomène? Alors, il peut y avoir deux grilles de lecture, soit une lecture universaliste, soit une lecture particulariste. Alors, si on veut faire une grille de lecture universaliste, on va considérer que la féminisation de la femme est un des facteurs, un des paramètres de la féminisation, mais c'est un paramètre parmi d'autres, ce n'est pas le paramètre essentiel. C'est le paramètre qui peut intervenir comme le vieillissement, l'intrusion de la biotechnologie, les maîtrises comptables, l'origine sociale des étudiants. En conclusion, cette écrit de lecture fait que les femmes seraient des médecins comme les autres, et donc ça n'accorde pas une importance plus particulière à la femme dans l'évolution de l'évolution de la médecine. On peut par contre aussi utiliser une grille de lecture particulariste et insister sur les spécificités des femmes médecins et sur les pratiques qui seraient a priori différentes de la pratique des hommes médecins. La féminisation de la médecine avec cette grille de lecture particulariste deviendrait un danger pour la profession en raison de la charge domestique des femmes et de la charge éducative. De ce fait, la féminisation entraîne une dévalorisation du statut de médecin, car elle remet en question le principe de disponibilité permanente du médecin qui serait essentiellement l'apanage des hommes. Ces deux modes de lecture ont montré leurs limites. Le phénomène de la féminisation de la médecine n'est une modification des tâches et des missions du médecin dans une société qui a changé, avec une médecine qui s'est profondément modifiée, des patients qui se sont profondément modifiés et une société qui s'est profondément modifiée. Si on veut éviter une réflexion court-termiste, il faudra considérer les différents paramètres de la complexité du problème et d'abord le définir. Et donc, on va se poser deux questions si on veut entrer dans cette complexité. La première question, c'est qu'est-ce que le métier de médecin? Et la deuxième question, c'est que sera la médecine de demain? Alors, si on veut interroger, si on veut définir le métier de médecin, d'emblée, il y a une première réflexion, c'est qu'on va dire le métier de médecin, c'est un métier pas comme les autres. Et pourquoi ça ne serait pas un métier comme les autres? Eh bien, c'est parce que d'abord, le médecin dispose de droits exorbitants qui sont dérogatoires du droit commun. Alors, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai qu'en médecine, le médecin dispose de droits exorbitoires du droit commun. Et c'est même une des particularités de l'exercice de la médecine. Il n'y a qu'à penser au fait que le médecin reçoit n'importe quel patient, patient délinquant peut venir se faire soigner dans le cabinet médical. Et pour autant, à la sortie du cabinet, le médecin n'est pas obligé de décrocher son téléphone pour le dénoncer à la police. Le médecin est capable d'arrêter quelqu'un de travailler. Et je dis bien d'arrêter de travailler, ce n'est pas un arrêt pour maladie, c'est un arrêt de travail. Et si l'on parle du burn-out, par exemple, il s'agit bien d'un arrêt de travail et pas d'un arrêt de maladie. Et c'est encore dérogatoire du droit commun que le médecin puisse disposer de cette prérogative dans la société. Alors on ne parlera pas de l'intimité, on ne parlera pas du secret médical, donc c'est vrai que le médecin dispose de droits exorbitants, dérogatoires du droit commun. Mais il a aussi un prestige social et moral important. Ce prestige tend à s'effriter avec le temps, mais peut-être n'est-ce pas que la conséquence de l'évolution sociétale, c'est peut-être aussi la conséquence de l'évolution de la représentativité du médecin. Il reste très engagé dans le social et l'économique, car le médecin est toujours au plus près de la réalité de terrain. Le médecin constitue le repère stable et le seul repère stable à l'intérieur de la société. Il n'y en a pas d'autre parce qu'il est directement au contact des problèmes sociétaux. Quatrièmement, il est exercé par une élite sociale et économique, avec un léger changement actuellement, parce que quand on étudie l'origine sociétale des étudiants en médecine, on s'aperçoit qu'ils sont plus originaires de la bourgeoisie moyenne que de la haute bourgeoisie antérieurement. Cinquièmement, c'est un exercice pragmatique dont une grande part n'est pas théorisable. La médecine est une science, on va le dire, qui relève à la fois du pragmatisme et du théorique. Et malheureusement, il n'y a pas de théorie de la pratique, il n'y a qu'une pratique de la pratique. Sixièmement, le diplôme de médecin a une bonne rentabilité à long terme, c'est un excellent placement pour les femmes. Septièmement, il est le garant d'un espace de liberté, et actuellement, l'exercice de médecin est le seul espace de liberté qui persiste dans notre société. Et c'est tellement vrai que tout le monde, toutes les tutelles et même le politique voudraient bien installer une caméra dans chaque cabinet médical pour savoir ce qui s'y passe, parce qu'il doit s'y passer des choses extraordinaires dans le cabinet médical. Donc on voudrait savoir ce qui s'y passe dans l'intimité du cabinet médical. Donc on voudrait qu'il y ait une surveillance de ce qui se passe dans le cabinet du médecin. Donc c'est vraiment le seul espace de liberté qui va persister dans notre société. Le médecin, huitièmement, est appelé au début et à la fin de la vie, et c'est le seul. C'est le seul dans la société qui est appelé au début et à la fin de la vie, et c'est aussi le seul qui est appelé quand il y a une souffrance. Et c'est donc le seul qui peut témoigner de la souffrance, et puis c'est le médecin qui est dépositaire du secret. Un secret qui n'est pas forcément un secret médical, théorique, c'est-à-dire de diagnostic. C'est un secret existentiel, c'est un secret ontologique, et c'est là qu'il y a une différence, et c'est là que c'est vraiment un métier à part. Dès lors, comme certains le passent, il doit être étudié comme un métier comme les autres, parce qu'il y a une professionnalisation importante et technique du métier de médecin. Nous ignorerons tout un plan de la pratique du métier de médecin, et c'est là qu'il y aura une difficulté. Nous voyons bien que dans toutes ces qualités, ces spécificités du métier de médecin, il n'y a pas une différence de genre, mais nous dirons quand même que ce sont des paramètres qui sont relativement utopistes. Et pourquoi ils seraient utopistes? Parce que le métier de médecin, c'est un métier type agent double. Pourquoi? Parce que c'est un métier qui est disqualifié et discrédité en permanence. Il est disqualifié et discrédité en permanence par le politique, par les tutelles. Les médecins sont des voyous, sont des voleurs, sont des petites frappes. Et c'est eux qui sont responsables du déficit des tutelles, de la CPAM, etc. C'est un métier qui est sous haute surveillance. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on voudrait bien savoir ce qui se passe dans le cabinet du médecin. on voudrait bien aussi savoir comment le médecin prescrit, pourquoi il prescrit. Donc c'est un métier qui est sous haute surveillance. Mais c'est aussi un métier qui est hautement spécialisé. On s'aperçoit de plus en plus que l'exercice général de la médecine est quand même difficile et qu'on s'oriente de plus en plus vers une spécialisation à outrance de la médecine. C'est un métier où l'usure mentale est plus importante que l'usure physique. Et ça, c'est une chose très importante que vous devez retenir, parce que quand on parle de l'usure du médecin, on parle toujours d'usure physique. Et quand on parle du burn-out, par exemple, du médecin, on dit toujours que c'est parce qu'il a trop de travail qu'il est effectivement en difficulté. Ce n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est que le médecin va s'user mentalement, et c'est cette usure mentale qui va déséquilibrer le physique du médecin. On pourra en reparler tout à l'heure. C'est un métier où le médecin a perdu le contrôle de son métier, la maîtrise de son action, justement parce que les tutelles prétendent que c'est elles qui savent bien faire la médecine. Et c'est paradoxal, parce que le médecin qui sort avec un diplôme de médecin d'université est repris en main par les tutelles, qui vont leur dire « top, top, votre diplôme c'est bien, mais nous on va vous dire comment il faut faire la médecine ». Et alors là, elles interviennent en disant « voilà comment il faut soigner l'hypercholestérolémie, voilà comment il faut suivre les diabétiques, etc. » C'est paradoxal, parce que qui délivre un diplôme de médecin? Est-ce que c'est l'université ou est-ce que c'est les tutelles? C'est un problème important, et c'est pour ça qu'effectivement, les qualités précédentes nous permettent de penser qu'elles sont utopistes. Le tout aboutissant à un déclassement social, et cela est aussi vrai pour les hommes que pour les femmes. Alors qu'est-ce que la médecine dans notre société? C'est un fait social à part qui réunit, je vous l'ai dit tout à l'heure, une pratique individuelle et ou institutionnelle qui réunit une économie qui est souvent une économie de soins, une économie de santé, une économie libérale, qui réunit une pratique de soins, qui réunit des biotechnologies et qui va réunir des questions d'éthique, plus particulièrement de bioéthique. Là encore, vous voyez bien qu'il n'y a aucune différence de genre et que le masculin ou le féminin peuvent parfaitement participer à ces différents items. Dès lors, la médecine va se composer de quoi? On l'a dit tout à l'heure, c'est une pratique, c'est-à-dire un savoir pratique, et deuxièmement, ça c'est le contenu, c'est la pratique, et deuxièmement d'un contenu qui est une connaissance théorique. Et c'est la seule science moderne qui est composée d'une connaissance théorique et d'un savoir pratique. Et là aussi, nous voyons que il n'est pas nécessaire qu'il y ait une différence genrée entre la pratique et le contenu pour que la médecine soit exercée. Pourquoi? Parce que le contenu théorique, il est le même pour les uns et les autres, et pour ce qui est le savoir pratique, la consultation est composée d'éléments objectifs et d'un narratif, et nous ne voyons pas là la différence entre les éléments objectifs qui seront les mêmes pour les hommes et pour les femmes, et le narratif qui ne fait que parler du sujet. Donc, en quoi la féminisation aurait-elle modifié la médecine? On peut se poser la question. Si la médecine est parfaitement définie à travers cela, il y a quand même une alors qui est un paradoxe, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, le médecin est sous haute surveillance, et pourtant, on va lui accorder de nouvelles tâches médicales dans la société. Alors c'est d'abord l'extension du domaine médical. De plus en plus, il va y avoir un accroissement des institutions sanitaires et des missions qui sont confiées au personnel médical. Une extension de la compétence médicale avec un développement de l'expertise médicale dans des domaines croissants relevant de la vie privée, sociale, de l'intime, du conjugal, voire du judiciaire. Et troisièmement, il va y avoir un souci général de la santé, c'est Ecce Homo Sanitas. On est passé d'une grande partie du médecin soignant au médecin éducateur de santé et du médecin traitant au médecin consulté. C'est la société qui s'est médicalisée en conférant une nature médicale à des représentations et des pratiques qui n'étaient pas jusque-là appréhendées en ces termes. Il est une redéfinition d'un problème existant dans le langage médical. Aucune de ces nouvelles missions ne paraît justifier une différence de genre. Dans la modernité, le médecin doit se positionner moralement, économiquement, juridiquement, techniquement et même irrationnellement face à un patient qui est un consommateur de soins, qui dispose de droits, et ça c'est important, le patient dispose de droits, et ça c'est nouveau que le patient dispose de droits, et qui a une personnalité morale. Donc, voyez comment le médecin va jongler, il est moralement impliqué, économiquement impliqué, juridiquement impliqué, techniquement impliqué, face à un patient qui est nouveau, puisque si jusque-là il était doté d'une moralité, Il est maintenant doté de droits et c'est devenu un consommateur de soins, dont le médecin, dans cet équilibre, devient un régulateur social, un révélateur social et un réformateur social. Mais là encore, aucune de ces postures ne suppose une différence de genre. Donc, aucun élément pouvant permettre de tracer une ligne de genre dans la pratique médicale traditionnelle. Quelle est donc la problématique? C'est un phénomène émergent, c'est la problématique actuelle. On le conteste, ça, parce que, comme on a vu tout à l'heure, et on le verra dans l'historique, l'apparition des femmes dans la médecine n'est pas un phénomène nouveau. C'est donc une problématique un peu dépassée. L'autre problématique, c'est qu'on a dépassé le seuil critique des 50%. La perspective est menaçante. Il y a une panique de la féminisation de la médecine. La pratique médicale a changé et de ce fait, on cherche un responsable. Alors, ce responsable, on va le trouver dans la féminisation parce que ça renvoie immédiatement à féminisme. Le mot est lâché. Il suscite alors sourire et condescendante comme s'il s'agissait d'un combat mené et dépassé, mené par quelques ennemis euménides. C'est une insulte parce que le mot de féminisme renvoie à sexisme et sexisme renvoie à racisme. Parce que nous ne sommes pas sortis de l'opposition entre les vieux stéréotypes misogynes et les impératifs d'uniformité, ne prenant pas en compte les problèmes de genre. C'est un phénomène médiatisé par le langage, langage qui ne reconnaît toujours pas le féminin. Pourquoi ? Si vous regardez, la femme est toujours entre parenthèses, lorsqu'on s'agit de donner un nom féminin à une profession, on met le E entre parenthèses, et plus particulièrement en médecine, il n'y a pas actuellement de féminin au nom de médecin. Alors il y avait un vieux mot français qui se disait médecienne, mais ce mot n'est pas passé dans l'usage. Deuxièmement, le masculin qui préside aux dénominations générales rend totalement invisible le féminin à l'intérieur de la profession et de la médecine. Troisièmement, le rôle de la nomination est important, mais ce n'est pas suffisant pour définir quelqu'un totalement. Donc voyez pourquoi actuellement le langage ne favorise pas l'implication des femmes dans la médecine. L'aspect quantitatif du problème. Alors là, on vous en a déjà probablement parlé et on passera rapidement. C'est l'accès des femmes aux études. De plus en plus de femmes accèdent aux études, donc il est normal qu'elles s'impactent après dans la société. Le pourcentage des femmes des réussites au bac est important et le bac est le premier escalier, la première marche pour ensuite entrer dans une professionnalisation. En médecine, il y a peut-être un biais de recrutement parce qu'il s'agit d'un concours d'entrée à l'université et que les femmes sont plus adaptées à ce type de concours. Donc là, il y a peut-être un biais de recrutement. Parce que certaines professions étaient essentiellement masculines et qu'il est normal que le remplacement générationnel se fasse par des femmes, parce qu'il y a une désertion des hommes pour la filière médicale, et la question que l'on peut se poser, c'est pourquoi les hommes l'ont déserté? Est-ce qu'il s'agit d'un métier qui est devenu moins attractif pour les hommes? Est-ce qu'il y a un désintérêt pour cette filière au profit d'autres filières qui sont les filières économiques, l'entreprise, l'ingénierie, la finance? Ou est-ce qu'il s'agit, on peut se poser la question, d'un repli stratégique? Malgré tout, les stéréotypes vont persister. La fantasmatique sociale voudrait que la progression au mérite ne soit pas une progression au mérite, mais simplement le fait que les femmes profitent d'une désertion masculine de certaines professions. Deuxièmement, le fait que la féminisation soit un équivalent de dévalorisation. Et il est vrai que dans un métier, lorsqu'il y a une dévalorisation du métier, on établit un lien logique entre dévalorisation du métier et féminisation du métier. La raison de cette dévalorisation n'est pas claire. Elles apparaissent plus sociologiques que médicales. Et il y a une persistance du statut inégal des femmes dans la société. La troisième chose, que ces stéréotypes sont très prégnants. Au fur et à mesure des franchissements des interdits, des discours se construisent qui tentent d'ignorer, de cacher la recomposition du masculin et du féminin professionnel et de nier l'involution de la ligne des genres. La question est donc une question historique, ça ne fait pas de doute, et là on va l'aborder très, très superficiellement, je pense qu'elle vous a déjà été abordée de façon plus importante. La deuxième est sociologique, c'est clair. La deuxième, elle est politique. une femme, une voix, donc il est évident que la question est politique, la question est économique, ne serait-ce que dans une répartition des charges à l'intérieur du couple, et la question est cinquièmement culturelle. La question est historique. La médecine a toujours été une vision prométhéenne. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'abord une faute originelle des femmes, et on peut dire que la médecine n'a pas été bien portée sur les fonds baptismaux par les femmes. Pourquoi ? Si l'on regarde la naissance d'Esculape, vous savez qu'Esculape est l'enfant d'Apollon et de Coronis, ou l'enfant d'un simple mortel et de Coronis, là la légende n'est pas très très claire, et que la révélation de cette transgression d'Esculape à la fidélité à Apollon a été faite par une corneille ou un corbeau qui devait veiller sur Coronis, et que la colère d'Apollon a été très très violente et qu'il a tué donc Coronis, mais qu'avant, enfin, la tuant, il a pratiqué probablement la première césarienne, puisqu'il a sauvé Esculape. Donc voilà la mère qui n'est pas très bien représentée dans la naissance d'Esculape, et donc probablement que c'est là un des problèmes de la mauvaise représentation des femmes dans la vision, dans la vision médicale. La deuxième difficulté qui a fait que la femme n'ont pas bien porté la médecine sur les fonds baptismaux, c'est que Hippolyte, qui a été ressuscité par Esculape, a été trahi par Phèdre et est même mort à cause de Phèdre. Donc là aussi, on se dit qu'il y a une faute originelle des femmes. Donc en définitive, enfin, je pense que ceci vous a été développé antérieurement, mais on pourra en reparler si vous le voulez, la femme est bonne à donner la vie et probablement moins à la sauver. Donc voilà la légende qui persiste. Et donc effectivement, on se dit que dans l'Antiquité, la femme n'est pas quelqu'un qui est apte à exercer la médecine parce qu'elle a bien montré ses limites et qu'effectivement, elle peut donner la vie, mais qu'elle est moins apte à sauver la vie. Donc les hommes ont pris le pouvoir à ce niveau-là. Donc le médecin est un homme et on peut dire que la médecine s'est faite homme, et donc c'est une vision tout à fait prométhéenne de la médecine. Pour autant, une question importante, et il faudra la résoudre, c'est est-ce que la médecine a été vraiment interdite aux femmes depuis les temps de l'Antiquité et même de la préhistoire ? Alors là, c'est quand on s'y intéresse, on s'aperçoit que non, la médecine n'a jamais été interdite aux femmes. Les femmes ont toujours été présentes, y compris dans les temps préhistoriques. Et même les femmes ont exercé la médecine, enfin ce qui était à ce moment-là des prêtresses qui soignaient. Donc les femmes ont toujours été présentes, et même majoritairement présentes dans la médecine. Pourquoi ? C'est parce que, et on va le voir à propos d'un mythe sur Agnodicée, les femmes ont toujours eu du mal à se laisser soigner par des hommes, surtout pour la maternité, pour l'accouchement, ou pour ce qui était de la gynécologie. Donc elles allaient plus préférentiellement vers des femmes. Et ces femmes ont toujours été présentes dans la société pour soigner les femmes. Donc il y a toujours eu des femmes médecins, elles ont toujours été là, mais effectivement, du fait de la répartition des rôles sociaux qui était imposée par la famille, les femmes ne se dirigeaient pas préférentiellement vers l'exercice de la médecine. N'oubliez pas, par exemple, que c'est une femme qui a créé le premier, au XIXe siècle, le premier mannequin pour apprendre l'accouchement aux sages-femmes, une femme qui n'était pas médecin même. Et parce que les femmes redoutaient d'être accouchées par des hommes ou d'être accouchées par des femmes qui étaient incompétentes. Donc elle a fait le premier mannequin d'accouchement pour résoudre ces problèmes-là. Donc les femmes ont toujours été là. Elles sont déjà là, nous l'avons dit, les chiffres sont éloquents et ne sont pas contestables. Donc elles sont déjà là et elles sont toujours contestées, voire non reconnues. Donc vous voyez, on a toujours la permanence de cette interrogation, et on va voir pourquoi tout à l'heure, la permanence de cette interrogation. Les femmes sont là, ont toujours été là, mais elles ont toujours été contestées, et elles le sont encore au XXIe siècle. Alors si l'on veut un exemple d'une fausse légende, c'est la légende d'Agnodicée, donc, qui est sur la plaquette, la plaquette d'introduction à ce séminaire. Donc la légende voudrait que la médecine ait été interdite aux femmes à Athènes, et qu'il y avait, il y avait un médecin qui exerçait la médecine, qui avait un bon recrutement parmi les femmes, à tel point de rendre les autres médecins hommes jaloux, et qui lui ont demandé de venir expliquer pourquoi il faisait du clientélisme auprès des femmes, et ils lui ont demandé de se justifier. Donc, ils ont fait venir Agnodice, et ils lui ont demandé de se justifier. Et en fait, elle a dit qu'en fait, elle était une femme. Et la légende est telle qu'il a fallu qu'elle se déshabille, qu'elle se dévêtisse pour prouver qu'elle était une femme. Ce qui est encore un paradoxe, car il est évident que jusqu'où doit-on aller au niveau du sexe pour prouver qu'effectivement, on est capable, dans un certain genre, d'exercer la médecine. Mais ceci est une fable. C'est une légende, et d'ailleurs, le livre dans lequel c'est inscrit s'appelait Le Livre des légendes. Et donc, effectivement, on ne peut pas retenir ça parce que en Grèce, il y avait beaucoup de femmes gynécologues, beaucoup de femmes accoucheurs, puisque la mère de Socrate exerçait donc les accouchements et la maïeutique, ce qui a donné effectivement le goût à Socrate de faire accoucher l'esprit des êtres humains. Donc on disait qu'il y a toujours eu des femmes en médecine. Ce flou sur le fait de la profession de médecin va persister jusqu'à la Révolution, où la Révolution française va dire que on peut exercer la médecine si on a les diplômes nécessaires ou si on a les connaissances nécessaires. Ou si on a les connaissances nécessaires. Donc ce n'est pas forcément des diplômes qui vont être reconnus. Et cela va être quelque chose qui va amener à l'exercice de la médecine un certain nombre de femmes. Mais pour autant, si la loi qui va permettre d'exercer la médecine simplement sur le fait de connaissances prouvées ou d'un diplôme, qui est la loi du 19-21 de la 11, ne parle pas de sexe. Elle va laisser la liberté à tout le monde de pouvoir exercer la médecine. Mais dans les faits, ça ne se passera pas comme ça. Car malheureusement, il faudra que les femmes montent au créneau devant les assemblées pour défendre le droit des femmes à exercer la médecine. Et l'Assemblée nationale constituante va les entendre beaucoup, en particulier Madame Tallien est montée au créneau, mais va leur dire, eh bien, écoutez, on va remettre ça devant le comité d'instruction et des saluts publics, et le comité d'instruction et des saluts publics a réservé une excellente écoute à Madame Tallien, va remettre la décision à plus tard. Donc, vous voyez que la Révolution se montrera généreuse dans les textes et peu généreuse dans la pratique envers les femmes. Alors, quelle est maintenant l'évolution de la féminisation de la médecine? Il y a trois époques. Donc, ça aussi, probablement que cela vous a été présenté, donc on va l'aborder que superficiellement, mais si vous voulez, je pourrai répondre à vos questions. Donc, il y a eu trois vagues successives. La première vague était une vague très importante, c'est celle des féministes qui vont militer pour que les femmes puissent exercer la médecine. Cette première vague va s'étendre de 1860 à 1920. Ce sont des féministes, souvent mariées et mères de famille. Elles s'emploient à la promotion de la femme et revendiquent l'égalité des sexes. La deuxième vague, c'est plus importante, 30%, on les appellera les discrètes, parce qu'elles vont se glisser dans le moule de la profession médicale et dans la norme de la profession médicale. Cette deuxième vague va s'étendre de 1920 à 1970. Elles sont plus nombreuses, mais elles sont également plus discrètes, parce que justement, elles tiennent à ne pas se faire remarquer à l'intérieur de la profession, de manière à ne pas être l'objet d'un ostracisme. Et la troisième vague, c'est maintenant, elles sont plus nombreuses, on nous a dit c'est 50%, et elles vont tendance à avoir à organiser la mixité. Elles vont organiser la mixité, elles sont engagées de façon très importante dans des mutations sociales, que ce soit la contestation de la division sexuée de la société, des mutations à l'intérieur du mariage, de l'affirmation d'une sexualité, et là aussi, c'est des femmes qui vont faire bien la différence entre la sexualité, la conjugalité et la maternité. Ce sont deux choses, trois choses qui sont bien différentes. Elles vont mettre en avant les revendications homosexuelles, elles vont utiliser la fécondation in vitro. Elles vont demander la légitimation des mères porteuses et bien sûr, elles vont pouvoir gérer la grossesse et la maternité avec la contraception. Ainsi, l'ancien usage de l'hétérosexualité, qui est la domination masculine, le partage précis des rôles, y compris dans la vie privée, est profondément bouleversé. on est entré dans une nouvelle éthique. Quelle est donc, parallèlement, la place de la médecine dans la féminisation du monde du travail ? Alors, en France, elle est importante et elle a été une pionnière dans la féminisation professionnelle, puisque les premières phases médecins exercent depuis le 19e siècle, alors que les premières phases ingénieurs n'exerceront que dans l'entre-deux-guerres, et enfin, les premières femmes chefs d'orchestre ne seront reconnues qu'à la fin du XXe siècle. Donc vous voyez que la médecine a été pionnière dans la professionnalisation. Tout ça a dû vous être exposé, mais je tenais à le rappeler. La date de 1868 est importante parce que c'est Madame Gébelin-Bresse qui va s'inscrire à l'école de médecine de Paris. Et pour s'inscrire à l'école de médecine de Paris, elle devra faire intervenir le ministre de l'instruction publique de l'époque, qui est Victor Duruy. Elle obtiendra sa thèse en 1975, mais pour autant, on lui refuse de s'inscrire au concours de l'internat, au motif, vous voyez, c'est déjà prégnant, au motif d'une éventuelle présence en nombre des femmes au niveau de l'internat. Vous voyez que cette crainte de la féminisation de la médecine est déjà présente en 1875. Le Lyon médical ira plus loin, puisqu'il écrira « La femme vivant de son travail est un monstre social. Il faudra attendre 1887 pour qu'elle puisse concourir en internat. » L'accès au poste de pouvoir est également difficile. On citera Camille Bonsignario, qui est reçue docteur en médecine en 1897. Elle demande un an plus tard l'autorisation d'ouvrir un cours d'ophtalmologie à Paris. Cela lui sera refusé. Et enfin, on en vient à Émilie Mesnard, en 1889, qui se voit refuser, ça s'intéresse à Bordeaux, l'inscription au concours de chef de clinique d'accouchement à Bordeaux. Le ministre de l'Instruction publique de l'époque, M. Gobelet, va prononcer cette phrase qui est devenue historique, « Un diplôme de docteur en médecine obtenu par une femme est nul et sans valeur. » On arrive à 1920. En 1920, nous avons 160 femmes médecins à Paris, autant en province. Il est à signaler que beaucoup sont de sources étrangères, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, roumaines, polonaises et russes, qui ont fui les pogroms des années 1880 et un régime tsariste, antisémite, qui a établi un numerus clausus, là aussi encore un numerus clausus, pour empêcher les femmes d'exercer des études médicales qu'ils appelaient ces monstres à cheveux courts. En Europe, c'est pareil, on passera rapidement, c'est un phénomène général. À Londres, Elisabeth Garrett est chassée de l'université, elle est obligée de venir terminer ses études à Paris. À Rome, Maria Montessori doit faire preuve de beaucoup de persévérance pour pouvoir faire des études médicales, mais sortira quand même major de sa profession. Vous voyez que les femmes sont toujours dans une excellence. En Autriche, c'est la psychanalyse qui est plus ouverte, puisque en 1907, sur les 58 membres de la société de psychanalyse, il n'y a qu'une femme. 20 ans après, elles sont à 30%. Et on citera différentes femmes qui vont à l'intérieur de la médecine autrichienne se distinguer. Hélène Deutsch-Rosenbach, qui est docteur en médecine et psychiatre, et qui est refusée quand même comme médecin des hôpitaux en 1914. Elle va diriger le premier institut de formation psychanalytique et va publier un ouvrage sur la psychologie des femmes. C'est elle qui va développer le fameux concept de « comme si », « h-if », qui est un concept de féminisation et qui va dire « il faut que les femmes soient comme les hommes ». On lui reprochera beaucoup de ne pas avoir utilisé d'autres facteurs sociétaux dans cette identification. On verra après apparaître Anna Freud, Mélanie Klein, et tout ça, qui vont être des éléments importants de la féminisation, de la psychanalyse. Aux États-Unis, je tenais à rappeler quelque chose de très important. La première femme médecin s'appelle Elizabeth Blackwell, et cette femme médecin va devenir médecin en même temps qu'apparaît un livre qui s'appelle donc La case de l'oncle Tom. Et ce livre donc est un livre consacré à l'esclavage des Noirs. Et Madame Elizabeth Blackwell va prononcer cette phrase extraordinaire à la même époque. Elle va dire « Il faudra réunir une assemblée pour discuter de l'esclavage des femmes, d'esclavage de la femme ». Voilà. Donc vous voyez que dans cette ascension des femmes à l'intérieur de la médecine, il y avait un double mouvement, ce mouvement d'accéder à une profession, mais également de défendre les droits de la femme. Et déjà, à cette époque, Madame Blackwell considérait que les femmes étaient en quelque sorte dans une position d'esclavage. Ce mouvement va donner naissance à un mouvement qui est l'affirmative action, qui est actuellement très puissant aux États-Unis, puisqu'il va imposer des quotas, excusez-moi, c'est à la mode, les quotas, il va imposer des quotas, il va imposer des quotas pour les minorités, pour les femmes dans certaines entreprises et dans certaines universités. Et ces quotas ne vont pas faire l'objet de sanctions, parce qu'on pourrait se dire, d'accord, si les universités, si les entreprises n'engagent pas un certain nombre de femmes ou un certain nombre d'étrangers, est-ce qu'ils vont être l'objet de sanctions? Non, au contraire, justement, ils ont tourné la difficulté, c'est-à-dire que si ces quotas ne sont pas respectés, eh bien, ils seront déclassés, et ceux qui ont respecté les quotas vont avoir des diplômes d'honneur et qui vont pouvoir afficher dans leurs entreprises. Donc, vous voyez, ils ont tourné un petit peu la difficulté. Donc, vous voyez qu'aux États-Unis, ce problème d'accession à l'université, c'est un problème d'accession à certaines professions en fonction des inégalités, et en particulier des inégalités hommes-femmes, est encore toujours d'actualité. Alors, nous l'avons dit tout à l'heure que la question était historique, nous l'avons terminée, mais là, on pourra répondre tout à l'heure aux questions concernant cette historique. La question est sociale et culturelle. Lorsqu'on évoque le social et le culturel, alors, on tombe dans un mur de complexité, j'ai même dit de surcomplexité, et qui est souvent des notions qui sont arbitraires. Cette complexité traduit avant tout des évitements collectifs. Il faut prendre la mesure de ces logiques d'évitement, et il faudra chercher à échapper à un modèle hégémonique de la femme, épouse et mère. Alors, quelles sont les logiques d'évitement? La première, c'est la reconduction du passé. Après tout, il n'y a pas à discuter, les femmes sont des hommes qui s'ignorent, donc voilà, il n'y a pas de problème, et elles n'ont qu'à se mettre au pas, elles n'ont qu'à se retroucher les manches et se mettre au travail. La deuxième, c'est la prolongation et la protection de l'existant. Les choses existent, on va continuer comme ça, il n'y a aucune raison que ça change, et de toute façon, l'existant étant la garantie du fait que ça peut continuer, donc il faut protéger ce qui existe et surtout ne pas chercher à se poser trop de questions. La troisième, c'est le rhabillage et le bricolage de la réalité de façon à impressionner favorablement l'opinion. Il y a actuellement des rhabillages et des bricolages de la réalité, ne serait-ce que par la récupération dans la démographie médicale des problèmes de cette démographie en créant ce qu'ils appellent les maisons de santé ou les maisons médicales. Mais ne nous y trompons pas, c'est un rhabillage de la réalité. Ainsi, les femmes et les hommes sont considérés comme arbitrairement et surtout abstraitement égaux, mais l'espace social et public est seulement masculin, c'est clair. L'espace privé et l'espace public sont fondamentalement séparés. L'espace public est l'espace de la citoyenneté et il est masculin par excellence. L'homme social se distingue de l'homme naturel par l'indépendance, la raison et la responsabilité. Tout ceci fait que ce sont des logiques d'émancipation, mais d'émancipation de l'homme essentiellement. À l'opposé, l'espace privé est celui des femmes, et c'est leur compétence, et le travail est un moyen d'accéder à l'espace public, et pas seulement à une utilité économique. Mais, et ce n'est pas si simple, l'organisation des travails et les rapports sociaux qu'elle suppose est source de contraintes et de domination. Sa réappropriation par les femmes peut devenir source d'émancipation, et de ce fait de conflit. Il ne faut pas l'ignorer. Alors, est-ce qu'on va faire une comparaison? Existe-t-il une pratique féminine ou une pratique masculine de la médecine? Le problème d'une comparaison est d'en savoir l'intérêt. Le seul intérêt de la comparaison des pratiques est d'en connaître l'impact sur l'efficacité et sur l'efficience. Deuxièmement, si comparaison il doit y avoir, et si comparaison est inévitable, le mode de comparaison doit être utile et doit être fertile. Dès lors, pourquoi la question se pose-t-elle? Est-elle un intérêt ou est-elle un moyen de faire face à une vraie réalité qui devrait se justifier en faisant une constatation? La féminisation de la médecine serait la cause de tous les maux. Les pratiques professionnelles des médecins sont sexuées, certes, mais jamais de façon à permettre des analyses fines sur les déterminants des éventuelles spécificités d'exercice et de leur évolution dans le temps. Nous ne sommes pas, il est clair, dans un système concurrentiel. Donc il faut délocaliser le débat. Il faut franchir le mur de la réalité et dévoiler l'écart entre une réalité constante, qui est une réalité construite, c'est-à-dire l'ordre social, les discours dominants et les idées reçues, et la réalité réelle, qui est la vraie vie, celle où, effectivement, la profession médicale a tout intérêt à se développer. Au sein de la profession, les discours véhiculent les mêmes qualificatifs. Les femmes sont fragiles, moins disponible, hypersensible, moins flexible, hystérique, capricieuse, animeuse, moins mobile. Les hommes sont toujours disponibles, moins malades, moins mobiles, plus mobiles, pardon, jamais distraits de la pensée professionnelle par le souci domestique en l'esprit de la compétition. Toutefois, pour les femmes, elles ont le sens du partage, de l'attention portée aux autres et un sens de la solidarité. Elles sont enfermées dans une fatalité anatomique et psychologique en les renvoyant à leur sexualité, avec des messages paradoxaux qui les sont délivrés, c'est-à-dire soit une femme pour ce qui concerne ta profession, soit un homme, ma fille, pour ce qui concerne ta profession, mais pour ce qui est de ta vie familiale, soit une femme. Donc on comprend qu'effectivement, ce type de message ne peut qu'amener à des difficultés. Elles sont porteuses toutefois d'un dessein professionnel original, apte à transformer, voire à humaniser la médecine grâce à leur qualité relationnelle. La difficulté est donc de savoir ce qui appartient à l'intrinsèque et ce qui appartient au culturel dans ces qualificatifs. Pour essayer de mieux comprendre la situation, nous allons essayer d'étudier les raisons des choix professionnels des femmes médecins. Nous allons nous caler donc sur une étude qui a été pratiquée il y a quelque temps. Les raisons des choix professionnels des femmes médecins. Pour ce qui est des urbaines, on dira que la charge de travail est moins importante, la proximité, l'accessibilité des confrères spécialistes est plus importante, et il y a des commodités scolaires pour les enfants et des commodités parascolaires. Pour les rurales, elles trouvent la clientèle rurale ou semi-rurale plus respectueuse, plus proche, plus sympathique, l'activité plus variée, les conditions d'exercice sont facilitées. Les deux, elles estiment qu'il faut exercer en dehors du domicile pour préserver leur vie privée. Mais, pour autant, deux sur trois disent que même si elles estiment ça, dans leur pratique, le fait qu'elles exercent à leur domicile ne pose pas ou très peu de problèmes et que, toutefois, c'est un avantage parce que dans les intervalles de vie non professionnelle, elles peuvent se rapprocher des enfants et du conjoint. Les individuelles, maintenant, elles ont une liberté de leur organisation, elles regrettent une charge de travail plus lourde, elles ont une difficulté à trouver des remplaçants, elles ont une difficulté d'assurer la permanence des soins et la continuité des soins. Les groupes, donc c'est les femmes qui ont choisi de travailler en groupe, elles ont la possibilité d'aménager leur temps de travail grâce au remplacement mutuel, elles ont une facilité dans la continuité des soins et la permanence des soins, la convivialité et la possibilité de discuter des cas difficiles, le partage des charges financières. Toutefois, quand on étudie les charges financières dans les groupes, elles sont très lourdes, mais souligne la difficulté du risque de conflit, d'autant plus important qu'il existe un partage des bureaux, un partage des plans de travail. Toutes les catégories souhaitent consulter sur rendez-vous, souhaitent ne pas avoir ou avoir peu de gardes, mais moins on a de gardes, moins on est capable de prendre des gardes. Donc c'est un peu paradoxal. Le sentiment d'insécurité est diversement partagé. C'est vrai que la féminisation pose un problème par rapport au sentiment d'insécurité, mais dans la réalité, dans les enquêtes qui sont pratiquées, les femmes ne sont pas plus l'objet d'agressions que les hommes. Ont une pratique préférentielle, les femmes, la gynécologie et la pédiatrie. La FMC, c'est une lecture de revues ou d'articles médicaux. Les avis sont partagés sur la pertinence et la nécessité d'une FMC. Les femmes pensent que c'est intéressant, mais que cela va peser sur leur vie privée, même si cela est indemnisé actuellement. La vie privée des femmes, les enfants, c'est un problème important, les enfants, parce que les femmes pensent qu'il faut être présente auprès des enfants pour assurer l'éducation des enfants. Mais quand on interroge les enfants, mais paradoxalement, les enfants disent que ça n'a aucune importance sur leur vie. Donc voilà ce qu'a montré l'enquête. Les conjoints, c'est important aussi. Ils comprennent que ce métier est exigeant, que c'est un métier qui est chronophage. Ils le comprennent soit parce qu'ils l'exercent eux-mêmes, soit parce qu'ils travaillent beaucoup à des postes de responsabilité. Ils signalent toutefois qu'il a fallu négocier à l'intérieur du couple les horaires de travail. Certains participent même à l'exercice, soit en répondant au téléphone, soit en aidant à des tâches administratives. Le problème de la grossesse, c'est un moment crucial dans la vie d'une femme. Toutefois, en pratique, il y a peu de problèmes. Le congé maternité des salariés représente un certain confort, mais actuellement, il y a eu des aménagements sur le congé des femmes libérales qui exercent dans le milieu libéral, toutefois avec une reconnaissance financière qui n'est pas à la hauteur de ce que les femmes trouvent dans le système salarié. Si la femme a été acceptée en médecine, elle est mise en mesure de réussir un triple challenge. Ce triple challenge, c'est de modifier l'univers professionnel. On va lui demander de le modifier parce que effectivement, actuellement, l'univers professionnel n'est pas exceptionnel. Nous avons dit que les médecins ne sont pas heureux dans leur profession. Donc, on va demander aux femmes de modifier cet univers, d'amplifier et de bonifier l'univers professionnel. Elles devront constituer une véritable variable de rééquilibrage dans le couple. Et troisièmement, elles doivent veiller au développement du capital social qu'est l'enfant. Mais tout cela se fera à coup d'image d'épinal, de bonne épouse, de bonne mère, de bonne professionnelle. Et il apparaît que tout cela est évident, que tout cela est gagné. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a qu'à se retourner les manches et puis se mettre au travail. Et que si la femme ne réussit pas, eh bien c'est qu'elle n'est pas capable de se socialiser pour pouvoir acquérir les compétences nécessaires et d'être identifiée comme femme accomplie et performante. Plus pragmatiquement, au-delà des idées reçues, les femmes n'exercent pas plus que les hommes dans des cabinets de groupe, puisque jusqu'à maintenant, l'idée qui traînait, c'est que les femmes exerçaient plus préférentiellement dans des cabinets de groupe. Les femmes ne choisissent pas plus préférentiellement le salariat, et même actuellement, les hommes salariés sont plus nombreux que les femmes. 50% des femmes médecins sont en exercice mixte, et elles représentent une médecine et une présence qui ne peut plus être ignorée ni contestée. Elles sont passées d'une présence sans visibilité à une visibilité toutefois sans réelle égalité. Il y a simplement une parité, pourrions-nous dire, et elles restent relativement ignorées sur le plan engagé. Nous l'avons développé tout à l'heure, et ce n'est pas la moindre des choses. Le modèle de référence de la pratique médicale reste toutefois la disponibilité permanente du médecin, même si on insiste actuellement sur la pluralité des styles de pratique, l'approche qualitative relève encore une permanence d'un seul et unique modèle, qui est la disponibilité permanente, et on insiste toutefois, dans le cadre de cette disponibilité permanente, sur le caractère chronophage des multiples activités professionnelles et une perte de maîtrise en regard au niveau de la vie domestique. Dès lors, que reste-t-il aux femmes? Eh bien, c'est ou bien ou bien. Ou bien, elles doivent identifier des pratiques professionnelles leur permettant de mener de front une activité professionnelle avec une prise en charge totale de la vie domestique et familiale. Donc, elles vont consulter ce rendez-vous. Il y aura peu d'urgence, on l'a dit tout à l'heure, ou peu ou pas de visite, et elles seront salariées. Cela leur permet de s'organiser autour d'un calendrier domestique prioritaire. Ou bien, elles adoptent les normes dominantes de la profession, et elles vont accepter de se mettre en disponibilité permanente. Elles sont donc célibataires. Il y a 16% de femmes célibataires dans la profession contre 6% simplement d'hommes. Elles seront mariées à des époux qui vont accepter que leurs épouses prennent quelques distances avec le modèle dominant à l'intérieur de la maison. L'époux à la maison s'occupant alors des enfants. Elles adoptent la tradition pour bénéficier des circuits officiels, puisque si elles veulent progresser dans la hiérarchie médicale, eh bien, il faut qu'elles adoptent la tradition. D'autres sont en rupture avec leur famille d'origine, leur pays, et vont mener un âpre combat pour se faire reconnaître et pour entrer dans la modernité. Troisièmement, certaines ont choisi d'emblée de nouveaux modes d'expression qui sont désertés ou qui n'existaient pas, qui sont vidés de toute expression masculine et où tout est à inventer. Dès lors, les femmes ont contesté la valeur traditionnelle de l'éthos qui était la disponibilité permanente. Les femmes ont mis en évidence la contingence des normes qui sont contestées, et elles vont mettre particulier en correspondance la dimension affective du vivre ensemble, la nature du lien social et l'exercice du savoir qui va bien au-delà des exercices des espaces de vie et de travail. Elles ont imposé une plus grande flexibilisation des horaires et des contraintes du métier. Et pour conclure, on va dire que les femmes sont là, sont bien là, et en tout cas ne sont pas seulement de passage dans la profession. Les évidences, la femme est porteuse de valeurs symboliques et d'une expertise qui ne peuvent plus être ignorées. Le travail est le seul champ social où se nouent véritablement les deux univers de la vie privée et de la vie publique, que l'on croyait jusqu'alors séparés. La femme est experte dans la sphère de la vie privée. Troisièmement, les femmes qui travaillent sont porteuses de ce lien ou de l'interface entre le travail salarié, le travail libéral et le travail domestique. Et c'est une interface qui est relativement subversive pour le salariat et le patriarcat et potentiellement émancipatrice. Mais cela n'est pas si simple. Le travail salarié est quand même une implication contrainte, cela est relativement clair. Et la femme qui va choisir le travail salarié doit bien comprendre qu'elle passe d'une servitude pour un autre à une autoservitude et acquiert une liberté nettement à l'intérieur d'une servitude. La chaîne invisible mise en place par le capitalisme se cristallise en une forme de servitude volontaire des femmes. Entrer dans ce processus n'est-ce pas en définitive pérenniser une société qui ne peut être que de domination et d'exploitation patriarcale et capitaliste? Je laisse aux femmes le soin de répondre. Les faits et les chiffres sont là. Qu'en est-il de l'égalité, de la libéralisation et de l'émancipation? La représentativité des femmes fait toujours problème. La reconnaissance reste encore très unilatérale et très inégale. Les femmes ont imposé un changement de référentiel en matière d'organisation du travail. C'est le terme du rapport à l'emploi des épouses, je dis bien des épouses des médecins, qui est déterminant, et l'augmentation du nombre de femmes médecins. Je dis bien que c'est l'épouse, non, des femmes qui sont non médecins, qui ont modifié le comportement des hommes médecins, et non l'augmentation des femmes médecins. L'éthos médical, nous l'avons dit, qui est la disponibilité permanente et remise en question. Les femmes ont impulsé une prise de distance envers le modèle de disponibilité permanente. Le modèle reste valable, même si la répartition du travail domestique reste très en faveur de la femme et si les promotions professionnelles continuent à favoriser les hommes. Et c'est particulièrement intéressant parce que ce changement de l'éthos traditionnel est tellement important qu'il a même impacté le comportement des hommes médecins célibataires. Les hommes médecins célibataires ont changé leur comportement et se sont mis dans une pratique professionnelle où la disponibilité permanente n'est pas le paradigme de leur comportement. Alors il ne faut ni idéaliser les prétendues spécificités féminines dans l'exercice médical, mais il ne faut toutefois pas les ignorer non plus. Ainsi, la dynamique et les aspirations imposées par les femmes médecins doivent être prises en considération, car elles impactent fortement l'exercice médical, y compris celui des hommes médecins, nous venons de le dire. Elles ont donné une compréhension différente de la vie médicale, de sa temporalité et de son importance politique et sociale. Malgré la différence des pratiques, la différence de temps de travail, si on s'en réfère à la déclaration des temps de travail, une femme médecin travaille 6 heures de moins qu'un médecin dans la semaine. Mais si on s'en réfère à la quantité de travail qui est abattue par les femmes, elle est la même que celui des hommes médecins, parce qu'elles sont plus capables de caler leur travail et d'être plus présentes à leur poste de travail. Vous voyez, donc il y a une différence entre les temps de travail déclarés et la quantité de travail qui est exercée. Troisièmement, des différences de revenus entre les femmes et les hommes sont encore tout à fait présentes, et cela est totalement inacceptable. Actuellement, donc les lignes de division du travail médical tendent à s'atténuer et même à disparaître, on ne peut que s'en féliciter. Hier les hommes, aujourd'hui les femmes, demain, bon, je vous répondrai par un vers de Prévert qui dit « L'homme a certainement envie de partir, de disparaître, de mourir, mais la femme a une furieuse envie de vivre, donc peut-être que c'est pour ça qu'elle est encore plus présente que l'homme dans la profession médicale. » La question qui se pose est de savoir si la fonction symbolique de la médecine peut réunir le masculin et le féminin. Alors oui, je pense qu'elle peut les réunir, mais à plusieurs conditions. Il faut que nous sortions définitivement des aliénations, il faut que nous sortions des images et des préjugés et des prérequis qui persistent encore à l'intérieur de la médecine et plus encore à l'intérieur de la société. Et troisièmement, il faut mieux habiter la parole et laisser dans cette parole une place au féminin. On a vu encore que la place du féminin était quasi ou pratiquement inexistante. Donc la fonction symbolique de la médecine pourrait réunir le féminin et le masculin. Et comme la médecine a été un promoteur de la féminisation professionnelle, on pourrait se dire que la médecine pourrait servir de modélisation pour mieux intégrer le féminin à l'intérieur de la société. Alors, est-ce qu'il y a émergence d'une nouvelle profession médicale du fait de la féminisation de la médecine? Alors, C'est difficile de répondre s'il y a une nouvelle profession médicale, parce que nous ne savons pas si c'est la conséquence de la féminisation de la médecine ou c'est parce qu'il y a une féminisation de la médecine que cela va induire un changement de la profession médicale. Alors, plusieurs remarques doivent être faites. La première, c'est que le travail est remis à sa place en médecine dans la chaîne des activités humaines, et cette remise en place du travail, c'est une action des femmes. La charge de travail est dénoncée comme incompatible avec un épanouissement personnel. Toutefois, les femmes médecins travaillent plus que les autres femmes actives. C'est une constatation. Deuxièmement, il y a moins de rigidité temporelle à l'intérieur de la profession du fait de la féminisation de la profession. Troisièmement, la féminisation de la société professionnelle est à l'origine des modifications des données du cadrage normatif de la profession, dont les normes ont changé sous l'action des femmes. Quatrièmement, les femmes, en défendant les intérêts de la sphère privée, ont largement infléchi la rigidité temporelle de la profession. Et cinquièmement, la part des femmes est prépondérante dans un rapport équitable entre la disponibilité temporelle, la philosophie du métier et les revenus. Le médecin, donc, maintenant, est un être humain, et peut-être que c'est une réponse à cette énigme du verset 1,27 de la Genèse qui dit « Femme et homme, il le créa. » Il le créa, femme et homme. Donc peut-être qu'après tout, le médecin est un être humain, ni homme ni femme, et peut-être que c'est la réponse à cette énigme du verset de la Genèse. Pour essayer de conclure, je pense qu'on ne saurait pas faire preuve d'originalité dans la conclusion. La féminisation aura au moins l'avantage d'un dialogue qui n'est pas une simple étiquetage des apparences, mais la possibilité d'une chance pour relancer la médecine, et tout au moins relancer une médecine heureuse, puisque je vous l'ai dit, les médecins actuellement, il faut bien le constater, ne sont pas très heureux. L'idéal sera de résorber toute différence entre les hommes et les femmes. La réponse restera toutefois insuffisante. Seules deux conclusions peuvent être dégagées. Premièrement, la part des femmes dans la profession médicale sera plus importante et plus déterminante et va probablement se stabiliser. L'aspiration des femmes médecins, déjà grandement partagée par leurs confrères masculins, concerne la profession tout entière. Il faudra donc faire avec. Avec quoi ? Avec les femmes ou avec la disparition des hommes dans la médecine ? Je ne sais pas quelle sera la réponse. L'évolution sociologique du patient sera toutefois, et il ne faut pas l'oublier, la première tournée incontournable, c'est le patient qui va réformer la pratique médicale et pas l'évolution de la féminisation de la médecine. Le patient est devenu un interlocuteur incontournable, je dis bien incontournable, de la profession de médecin. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'est plus dans l'ordonnance, on est dans la négociance. Deuxièmement, la crainte d'une régression du statut professionnel est plutôt le reflet de la permanence d'un statut inégal de la femme au point de vue sociétal. C'est donc avant tout un problème de société et pas un problème de profession médicale. Voilà. En définitive, je dirais que on aura atteint une véritable vertu égalitaire dans la profession quand tout médecin qui pensera qu'il pourrait être remplacé par une femme le sera. Et ce n'est pas la moindre des choses, parce que je ne crois pas qu'on soit encore tout à fait à ce niveau-là. Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur l'avenir de la médecine, sur la féminisation, sur le devenir du métier. Vous voyez que ce n'est pas une chose simple. Parce que si ça paraît évident sur un nombre numérique, sur un nombre purement statistique, ça l'est moins quand on va en profondeur. Et la constatation que nous avons pu faire, c'est qu'en définitive, un, l'influence sur le milieu médical n'est pas une influence de la féminisation du nombre de femmes médecins sur les bancs de la faculté, mais la persistance d'un reflux inégal à l'intérieur de la société. Alors que dans des sociétés antérieure, le statut de la femme était bien meilleur. Donc ça pose un problème de réflexion sociétale. Et que deuxièmement, il y a un grand oublié dans la féminisation de la médecine, qui est l'usager, et je crois qu'il faudra bien prendre la dimension, et c'est peut-être cet usager qui va apporter la réponse la plus importante dans la réforme du métier de médecin. Donc voilà.